Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Eh bien, donc, je me prénomme Jonathan Desjours. Donc, j'exerce sur Bordeaux, ainsi que partout en France, en visioconférence, en tant que thérapeute et coach de l'inconscient. Voilà, donc ça fait à peu près maintenant 4 ans d'activité que j'ai sur ce domaine. Et donc, j'accompagne les personnes dans la transformation qu'on appelle la transformation intérieure.
D'accord. Merci Jonathan pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler d'inconscient. Alors justement, Jonathan, de quelle manière souffre-t-on à son inconscient ?
Eh bien, il y a différentes méthodes, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle le rêve éveillé. C'est-à-dire qu'on on rêve d'une certaine chose et puis notre psyché veut nous faire comprendre certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, notamment une certaine compréhension de notre vie. C'est surtout comprendre nos pensées, bien évidemment, puisque on réalise notre vie, c'est ni plus ni moins la réalisation de nos pensées.
D'accord.
Ça, c'est la base à comprendre. Ensuite, on a ce qu'on appelle la spirale sensorielle qu'on utilise notamment dans le cadre de l'hypnose. Et donc, ce sont deux outils qui permettent en effet de pouvoir s'ouvrir en fait à son inconscient. Alors, donc, qu'est-ce qui est important en fait, pourquoi c'est important de s'ouvrir à son inconscient ? Parce que comme peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà pris des notes, vous avez déjà peut-être quelques ouvrages sur le domaine ou sur le sujet. Et donc, vous avez pu noter comme quoi 85%, voire même 90% de nos actions, de vos actions, étaient de l'ordre de l'inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inconscient ? C'est ni plus ni moins vos mémoires, mais mémoires de pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre vie, depuis votre tout jeune âge, depuis que vous êtes né, voire même avant, eh bien, vous avez conscientisé notamment sur votre environnement. Et c'est cette conscientisation de votre environnement, donc, l'ensemble de ces pensées que vous avez pu emmagasiner, qui représentent votre inconscient. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez un certain âge, vous avez déjà un parcours de vie, et donc vous avez forcément un parcours inconscient. Et c'est ce parcours-là qui agit en permanence dans votre quotidien, c'est ce qui va influencer vos choix. Alors, qu'est-ce qui va venir se rajouter à cela ? Va venir se rajouter, bien évidemment, l'éducation. Qu'est-ce qu'on entend par l'éducation ? Eh bien, ni plus ni moins ce que vous ont transmis vos parents. Donc, ce n'est pas forcément dans le verbal que ça se produit, mais surtout dans le non-verbal, ce qu'on appelle le fameux mimétisme.
Oui.
Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver essentiellement les blessures d'âme. Donc, c'est-à-dire, vous allez mimiser, ni plus ni moins reprendre les mêmes imitations que vos parents, les mêmes blessures. Ça peut être le père comme la mère, que vous allez du coup influencer dans vos choix, dans vos pensées et donc dans vos agissements, dans votre comportement, et ce qui va vous faire vivre ce que vous vivez aujourd'hui, parce que vous êtes uniquement en train de vivre vos pensées. 90% de ces pensées sont inconscientes. On va retrouver aussi d'autres aspects, comme les injonctions aussi, c'est-à-dire le soi fort, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi. Ça, c'est des mots peut-être, des phrases, des expressions qui reviennent régulièrement dans votre tête, et qui agissent aussi sur votre comportement. Donc, chaque pensée, automatiquement, est intégrée plus ou moins dans votre subconscient, et celui-ci va les appliquer en fonction de votre conviction, votre niveau de conviction. Et c'est ça qui agit, notamment, dans ce qu'on appelle le monde matériel. C'est-à-dire que pour que quelque chose existe dans votre monde réel, il faut d'abord qu'il existe dans votre monde intérieur, c'est-à-dire dans vos pensées. Donc, en quoi c'est important d'avoir cette croyance comme quoi on crée sa pensée ? Eh bien, pour se sentir, éviter que l'on soit victime de sa vie. Et aussi, par la même occasion, d'avoir une meilleure construction de sa vie. Dès lors que je sais déjà que l'origine, c'est ma pensée, je vais éviter de penser de façon, qui va m'auto-saboter.
Ouais.
Pour créer ou générer des freins dans ce que je souhaite, dans ce que je veux. Et donc, moi, je vais nous inviter à faire un petit exercice avec moi.
Ouais.
Je vais vous demander de simplement d'imaginer en face de vous une personne que vous appréciez fortement, une personne que vous appréciez bien. Je vais vous demander de l'imaginer, la voir comme s'il était en face de vous. là. Elle vous regarde, vous pouvez voir ses cheveux, vous pouvez voir son sourire, vous pouvez aussi entendre dans la manière dont elle vous parle. Vous pouvez regarder aussi sa morphologie. Et là, vous allez rajouter son prénom et son nom de famille sous cette personne. Donc là, vous l'avez bien en tête, vous ressentez aussi en même temps cette affection peut-être, cette tendresse que vous avez pour cette personne. Et là maintenant, tout de suite, vous allez simplement changer son prénom et son nom. Changez-le par n'importe quel prénom, n'importe quel nom que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous remarquez ?
J'imagine que le sentiment qu'on avait de bien-être s'en va, ou en tout cas on s'en coupe, non ?
C'est ça, on s'en coupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la pensée, il y a trois éléments clés. Il y a la fameuse perception. Donc la perception, c'est tous les sens. Donc ça ne comporte pas seulement que cinq sens. Il y a aussi les sens intérieurs qu'on peut avoir, nous-mêmes, ressentir à un moment donné. Il y a en effet l'interprétation. Donc l'interprétation va lier notamment avec votre éducation, le pays et ainsi que le vocabulaire que vous avez utilisé, mais aussi votre interprétation liée à votre carte du monde intérieur. C'est-à-dire que un chat, par exemple, peut représenter bon nombre de chats. On peut voir, par exemple, des couleurs de chats différents, un gris, un marron ou autre. Donc ça, ça va être en lien par rapport à votre passé. Et puis, le fameux ressenti. L'émotion n'est pas coupée de la pensée. La pensée, dans la pensée, on intègre donc l'émotion. L'émotion et le sentiment. Le sentiment étant la consolidation de plusieurs émotions. Ainsi que vous avez l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est que vous avez pu remarquer, c'est le nom et le prénom, notamment ici, de la personne. Et la perception, donc l'image, le son éventuellement, que peut représenter cette personne. Donc c'est bien à partir de votre pensée que vous créez votre vie, et non par rapport aux celles des autres. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans les cas suivants ? C'est que vous pouvez être influencé donc, par la pensée des autres. Mais ça, c'est de votre libre arbitre. Donc il n'y a pas des personnes qui viennent vous polluer intérieurement. Ça, il faut bien le comprendre. C'est que par contre, quand je suis hypersensible, eh bien, je vais faire régulièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'identifier à l'expression émotionnelle, puisque la personne fait comme la plupart du temps, comme nous aussi, on exprime ni plus ni moins nos émotions, c'est-à-dire on exprime notre pensée, la personne en face fait la même chose, et nous par contre, si on est hypersensible, on va venir s'identifier à ses pensées. Et donc on va prendre ses pensées pour nous, donc les ressentis, mais avec notre carte du monde, notre propre carte du monde. C'est ce qui fait que des fois on est en souffrance, alors que la personne en face ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas cette même carte du monde que nous. Donc, elle n'est pas pour autant, on n'est pas pour autant victime de cette personne, et cette personne n'est pas non plus notre bourreau. Et ça, on a tendance un peu à mettre tout ça un peu dans le même panier, ouais. Si je peux exprimer ça. Alors que c'est complètement faux. Hein. Aucune personne sur Terre vient nous influencer. C'est nous, prenons ou pas, qui interprétons, ni plus ni moins, la pensée des autres. Et qui viennent se l'approprier. Et on vient se l'approprier. Donc c'est aussi, du coup, c'est bien savoir maîtriser cette fameux effet miroir. Dès lors, on comprend ce fameux effet miroir, donc cette fameuse interprétation, que c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui interprétons cette réalité, et que l'autre a sa propre réalité aussi, automatiquement, on peut mettre ce qu'on appelle du fameux détachement. Auquel cas, pouvoir écouter simplement la personne, ce qu'elle exprime ou ce qu'elle veut exprimer, et aller creuser ses expressions. Qu'est-ce qui fait que tu penses ainsi ? En quoi c'est important pour toi de penser comme ça ? Et comment tu comptes, toi, t'y prendre pour penser différemment ?
D'accord. Je vois que ton exercice a très plu, Jonathan. Je vois les personnes qui demandent de le refaire. Je pense que n'hésitez pas à le refaire. Après, plus tard, vous pourrez revoir la vidéo. C'est simple, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Merci Jonathan déjà de nous avoir un peu plus parlé de cet inconscient qui parfois on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Alors justement, en quoi aussi c'est important de se libérer de toutes ces blessures invisibles et de tous ces schémas ?
Eh bien, comme vous l'avez compris, automatiquement vous enregistrez tout. Ce qui veut dire que vous allez enregistrer des perceptions, donc des interprétations, des ressentis, donc des pensées, qui ne sont pas forcément en adéquation avec la vraie réalité. Mais par contre, comme c'est enregistré, vous aurez, par exemple, dans la vie, vous allez avoir des événements qui vont se reproduire, qui seront plus ou moins similaires, Et votre cerveau ne fera pas la distinction. Lui, il va reprendre les anciens schémas. Il va reprendre cette mémoire. Il ne va pas faire de distinction. Si, par exemple, à 5 ans ou 6 ans, et là, on revient avec sur les blessures émotionnelles, sur les raisonnements, sur les fameux raisonnements qu'on peut enregistrer, sur les fameuses injonctions qu'on peut enregistrer, eh bien, à 20 ans ou 25 ans, vous allez ni plus ni moins reproduire, c'est-à-dire aller chercher le même conjoint avec les mêmes problématiques, par exemple, que vous avez vécues avec vos parents, de manière inconsciente, et puis reproduire bah, justement ces mêmes mémoires, donc la même souffrance, qui est complètement inutile. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous avez complètement oublié que vous avez un inconscient, donc des mémoires. Dès lors, vous voulez transformer ces mémoires. C'est-à-dire que vous dites qu'à 5 ans, par exemple, bah non, c'est une autre perception. Finalement, mon papa ou ma maman, par exemple, ne m'ont pas abandonné, ne m'ont pas rejeté, ou bien ne m'ont pas humilié. J'ai bien compris que c'était leur schéma à eux, que même ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils étaient en train de me dire. Donc, je pardonne par rapport à ça, je leur pardonne. Donc, je m'apaise aussi, moi, intérieurement, de ce fait. Donc, du coup, je souffre moins, j'ai moins d'angoisse, j'ai moins d'anxiété. Et puis, du coup, en ayant moins d'angoisse et moins d'anxiété, bah, je crois davantage en ma vie et en ce que je souhaite penser. Donc, je peux aussi construire, du coup, ma pensée. Et en construisant ma pensée, bah, je peux construire un avenir serein. C'est comme ça qu'on peut savoir notre avenir. C'est pas en idéalisant, c'est en transformant notre passé. Plus je transforme mon passé, plus j'aurai une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire un avenir, un présent, un avenir qui va correspondre à ma pensée réelle et non pas à ce que j'ai dans mon subconscient.
Ouais. Intéressant.
Et puis après, c'est surtout les schémas automatiques. C'est-à-dire, bah, automatiquement, par exemple, je vais faire un effort, ce qu'on appelle le fameux tout contrôle, hein, c'est-à-dire que je vais faire un effort supplémentaire pour éviter de penser à une mauvaise interprétation, pour éviter de ressentir l'angoisse. Alors, je vais contraindre encore plus. Et surtout, bon, bah, j'y pense pas, donc je vais ruminer, je vais dire en même temps, bah, non, c'est pas vrai, c'est pas ça, et ainsi de suite. Je vais attendre que la personne se revienne pour savoir si c'est vrai. Tout un schéma mental, finalement, qui va vous obstruer toute la journée. Donc, au lieu de vous centrer ni plus ni moins sur ce que vos véritables passions, sur vraiment ce que vous souhaitez de vous-même, eh bien, vous le consacrez à autre chose. Votre énergie est complètement déplacée sur comment vous apaiser.
Bien sûr.
Eh oui, donc auquel cas, bah, vous ne pouvez pas vous centrer sur ce que vous aimeriez, sur lequel vous souhaiterez vous épanouir.
Finalement, on a une personne qui nous dit on passe de l'inconscient à la conscience pour devenir créateur.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors qu'aujourd'hui, principalement, les personnes ne fonctionnent qu'avec le conscient, ce qui veut dire que 5%. Et donc, en plus, comme on part du système limbique qui est ici, imaginez que déjà, on emploie aujourd'hui souvent le fameux émotion négative et positive. Donc, quand vous vous mettez en colère, imaginez ce que vous pouvez ressentir. Vous amplifiez la colère. Au lieu de la calmer, bah, vous l'amplifiez. Au lieu de dire, bah, oui, la colère, à quoi elle me sert? La colère, elle sert pour l'être humain à montrer qu'en fait, il souhaite changer une situation ou changer le comportement d'une personne. C'est pas négatif. Il n'y a rien de négatif d'être en colère. Après, par contre, c'est simplement de savoir comment je peux maîtriser cette manifestation, sachant qu'il y a un débordement d'énergie. C'est vrai que chez les hypersensibles, la particularité, c'est que l'énergie est abondante à ce moment-là. Donc, c'est de savoir comment je peux me détacher à ce moment-là, donc avec des techniques de détachement de la personne et de la situation, qui va me permettre de prendre assez de recul pour éviter d'avoir ce débordement d'énergie.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Mais surtout, d'accepter cette colère. Oui, écoute, là, ce que tu es en train de faire ne me correspond pas, ne me convient pas. Parce que pourquoi? Bah, parce que tout simplement, je le perçois comme ça. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse changer cet effet-là? Mais à deux. Ou toi. De mettre un compromis. Puisque tout est une histoire de compromis après dans la vie, notamment lorsqu'on est à deux. C'est-à-dire de savoir concorder ces deux cartes du monde. C'est ça. Avant tout. Et quand je suis triste, bah, accepter aussi cette tristesse. Pourquoi? Parce que la tristesse, avant tout, c'est une émotion aussi de changement. Je passe du passé, c'est-à-dire peut-être d'une croyance, d'une conviction du passé, à une conviction présente, à une conviction du futur, qui va m'amener justement vers un changement de pensée et donc un changement de vie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le redis, c'est votre création de pensée, donc ce sont vos pensées que vous vivez au quotidien. Votre vie, ce sont vos pensées.
Ouais.
Ni plus ni moins, c'est pas celle des autres. On n'a pas à vous imposer d'autres pensées. Par contre, vous vous identifiez aux autres pensées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde a plus ou moins la même croyance un peu pour tout. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs les mêmes métiers. Hein. C'est parce que tout ça, on reprend. Pourquoi ? Par insécurité. Parce qu'on se dit, bah, comme un tel a réussi, bah, moi, je vais réussir aussi. Alors que c'est faux. Parce que chacun a sa carte du monde. Donc, chacun a sa façon de faire, sa façon de réagir aux choses, aux situations. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas très peu d'insécurité va se mettre indépendant sans aucun problème. Mais quelqu'un qui aura une blessure d'insécurité, pour être indépendant, ça va être compliqué. Il va mettre 3 ans. Là où l'autre va mettre 1 an. Ou peut-être moins. Ou peut-être pas du tout. Et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas copier et coller sur les autres sans arrêt les pensées des autres. C'est impossible. À ce moment-là, tout simplement, on vit, dans ces cas-là, leur chemin de vie, pas le nôtre. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est quand vous souffrez, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Vous êtes en train de prendre inconsciemment le chemin de vie de vos parents, de papa, maman, qu'est-ce qu'ils disaient, même des grands-parents avec l'histoire du transgénérationnel, ou bien du voisin, de la voisine, ou bien de ce que vous n'avez pas vu à la télé. C'est un peu pareil dans les relations. Les personnes, par exemple, qui se lancent dans une relation, qui veulent une relation de couple, la plupart du temps, ils ne créent pas de pensée. Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils rencontrent n'importe qui. Vous ne créez pas de pensée. Oui, je veux être en couple. Ok, mais qui ? Qui tu veux dans ta vie ? Comment tu as construit ta pensée ? Il faut la construire, l'écrire. Il faut qu'elle soit matérialisée dans ton esprit, que la pensée existe. Une fois que la pensée existe, vous allez voir que la personne va arriver. Et ça, il faut y croire. Quand vous croyez à la puissance de la pensée, ben, il n'y a pas de souci. Tout arrive en temps et en heure. Par contre, absolument, ce qui est important, c'est de ne pas contrôler. Je construis ma pensée non pas dans l'idéalisation. Attention, là aussi, c'est pareil. Il y a une large mesure. C'est que lorsque j'idéalise, c'est-à-dire que lorsque je suis trop exigeant, ça ne marche pas non plus. Parce qu'il n'existe pas les personnes parfaites. Vous-même, moi-même, je ne suis pas parfait. Loin de là. Par contre, j'ai accepté toutes les parties sombres de moi-même. Ce qui veut dire aussi, du coup, quand je vais rencontrer cette personne, je serai à même aussi à accepter sa partie sombre. Peut-être que lorsque je rencontre une personne, et comme je suis idéaliste et que je suis exigeant, ben que lorsque je rencontre personne, je la vois pas. Pourquoi ? Parce que je suis focalisé, ma pensée est focalisée sur mon exigence. Ça aussi, on ne perçoit pas.
D'accord.
Parce que chacun est différent et chacun a sa carte du monde. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de créer sa pensée de façon légitime, en acceptant toute cette partie sombre de nous-mêmes, c'est-à-dire tous les parties qu'on peut avoir, c'est-à-dire le tout séduction, d'être au centre de l'attention des autres, d'avoir un côté pervers, d'avoir un côté paranoïaque, d'avoir un côté psychopathe. Tout ça, les êtres humains l'ont. Ce côté aussi, de vouloir tout séduire tout le monde, de vouloir plaire à tout prix. Tout ça, c'est des choses qui sont, je dirais, en commun avec tous les humains, puisque c'est ce qu'on développe notamment en tant qu'enfant, sur cette partie-là. Après, vont se développer différemment les blessures, bien évidemment, ainsi que tous les comportements avec les raisonnements qui sont en lien avec l'éducation et les différentes croyances qui vont s'en découler. Et ça, c'est important de vraiment, vraiment se dire, bah ouais, en effet, je crée ma pensée et c'est pas l'autre qui vient m'embêter.
Ouais.
C'est moi qui a attiré cette situation. Pourquoi ? Parce que j'ai créé ma pensée. Si je dis, par exemple, ah bah, je ne veux pas, par exemple, être avec une personne qui me met en insécurité, déjà, j'emploie une négation.
Ouais.
Bon, bah, qu'est-ce que ça fait dans le subconscient ? Le subconscient, on le sait depuis des temps, il n'écoute pas la négation. Donc, ça veut dire que je veux avoir une personne qui sera dans l'insécurité. Et qu'est-ce que j'écoute vraiment ? Est-ce que j'écoute aussi ce que je veux bien entendre ? Ou bien je suis prêt à écouter ce que je n'aime pas entendre ? Ça aussi, c'est mon miroir. Ce que je n'aime pas entendre, bah, forcément, je ne l'aime pas. Ouais. Donc, je le mets de côté, je l'oublie. Mais en l'oubliant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je dénoue avec la personne, je prends le temps de dénouer avec elle, ce qu'elle voulait dire vraiment sur cet aspect-là, ou je garde tout simplement ce qu'on appelle mon propre interprétation ? Eh oui, et une interprétation que je rappelle qui date depuis qu'on est dans une cellule, donc même avant même, je dirais, la naissance.
Ouais.
Donc autant dire, si par exemple je nais dans un foyer où mon père, par exemple, battait ma mère, eh bien, je vais imaginer, inconsciemment, je vais me sentir comme quoi bah, tous les hommes, ce sont des personnes qui battent les autres, par exemple, qui sont violents. Alors que je rappelle que chaque individu, nous sommes des primates, et donc la base des primates, c'est qu'on a des pulsions agressives et sexuelles. Les pulsions sexuelles, c'est l'énergie la plus forte chez l'être humain. qu'on va venir détourner dès l'âge à peu près de 5 ans, 6 ans, avec ce qu'on appelle la connaissance. Dès lors où l'enfant va se tourner vers la connaissance, qu'on appelle l'orthographe, les mathématiques et autres, ainsi de suite, on détourne cette énergie sexuelle. Il faut savoir que les parents, beaucoup de parents, trois quarts des parents, ne savent pas d'ailleurs aborder cette partie-là. Avec les enfants, dès l'âge de 3 ans, où ils commencent à se détacher de la mère, hein, puisqu'ils ne fusionnent plus avec la mère. Et donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, ben ça les travaille. Ça travaille ce domaine-là, puisque c'est une puissance très importante. Les pulsions sexuelles sont très importantes. C'est pour ça que c'est aussi, ils prennent autant d'ampleur dans notre monde aujourd'hui. Il n'y a pas non plus à les renier. Il faut savoir aussi comment ça a été traité, cette partie-là, avec les parents, au niveau de la morale. Parce que je rappelle encore une fois, c'est que toutes ces parties des pulsions agressives et pulsions sexuelles sont maintenues par une morale. Donc tout dépend aussi comment vos parents ont construit cette morale et comment vous, vous êtes construit par la suite cette morale. Il y a bien évidemment une partie, ce qu'on appelle de morale dite inconscient collectif, qui est liée notamment à l'éducation, notamment aujourd'hui judéo-chrétienne, mais pas que. Ça, c'est qu'une infime, c'est la partie consciente. La partie inconsciente, c'est tout ce que nos parents ont pu nous dire ou faire, ou le par mimétisme. Si un parent lui-même, par exemple, culpabilisait ne serait-ce que d'écouter ses pulsions sexuelles, il est évident que vous, ça sera la même chose.
Ça va se répéter.
Et donc, de ce fait, vous aurez en effet, encore une fois, des relations qui seront concomitantes à ce sujet. Donc, vous allez automatiquement en souffrir.
Alors justement, Jonathan, on a pas mal de questions qui reviennent à la question que je te posais. Les questions qui sont là sont comment reprogrammer le subconscient. Alors finalement, Jonathan, de quelle manière je peux obtenir la vie que je veux avoir?
La première des choses déjà, c'est de libérer toute cette partie inconsciente, donc d'aller le visiter. Ça ne se visite pas tout seul, hein, puisque c'est inconscient, c'est-à-dire que ça échappe à la conscience. Donc vous avez besoin d'un professionnel dans le domaine. Et ensuite, c'est le professionnel qui va vous amener à reconstruire avec des nouvelles convictions la partie du subconscient. Donc, en même temps que je libère, en même temps je crée. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans bon nombre de thérapies, c'est qu'on va libérer, mais du coup, c'est le cerveau qui va remplacer. Et souvent, le cerveau remplace avec les mêmes schémas. Ce qui fait que des fois, il y a des personnes qui continuent les thérapies sur 5, 10 ans, 20 ans. Parce que pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne de la même manière. Or là, il faut lui indiquer comme quoi, non, je libère ça, mais je souhaite remplacer par telle conviction. Comme par exemple, si je prends le cas des blessures émotionnelles, si demain je veux me libérer de ces blessures, eh bien faut-il que j'accepte de croire d'être aimé par toute l'humanité et d'aimer à mon tour toute l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité étant mon reflet, puisque l'humanité, moi-même, j'en fais partie, donc c'est mon reflet aussi. Ça veut dire que c'est moi aussi. Automatiquement, je ne veux pas me faire rejeter ou même abandonner. Je ne peux pas penser ça, puisque je suis aimé par toute l'humanité.
Bien sûr.
Eh oui, forcément. Si je me dis que je suis aimé par toute l'humanité, je ne peux pas imaginer ou même interpréter comme quoi quelqu'un veut me rejeter ou quelqu'un veut m'abandonner. Ne serait-ce que ça. Et donc, à chaque situation que je vais vivre, automatiquement, ça va rebondir sur ces convictions, ne serait-ce que celles que je viens d'élaborer, mais bien d'autres, hein, bien évidemment, qui consistent notamment à accepter ce qui est, pour éviter que mon cerveau parte dans le futur ou dans le passé, ou tout simplement me libérer en même temps du passé, donc accepter mon passé tel qu'il est. Quand vous avez une conviction comme celle-ci, votre passé ne revient pas dans votre présent, et donc ne vient pas aborder justement toutes ces interprétations que vous pouvez avoir aujourd'hui et qui vous empêchent d'avancer. C'est comme ça qu'on crée sa vie. C'est comme ça qu'on crée sa vie. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on la crée, on la touche sur un papier et on se dit qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, par exemple. C'est surtout qui je veux être dans un premier temps. C'est toujours le être. Être passe en premier. Qui je souhaite être. Et une fois que je suis certain de qui je veux être, vous avez bien compris, j'attire ce que je ressens, mais c'est surtout j'attire ce que je pense, puisque le ressenti fait partie de la pensée, d'accord? Ben dans un deuxième camp, du coup, je deviens ce que je pense. Donc, vous avez créé votre pensée, vous devenez. Et après, c'est deux règles essentielles, quatre, c'est l'équilibre, donc l'objectif de l'équilibre, l'harmonie, pour éviter d'avoir mal aux omoplates, par exemple, ça c'est très important, entre guillemets, mais aussi la patience et la persévérance. Si je n'ai aucune patience, automatiquement, je vais être dans l'attente. Donc, ça veut dire que lorsque je crée ma pensée, eh bien, automatiquement, après, je me détache de cette pensée parce que je l'ai formalisée, donc automatiquement, je l'ai envoyée et ensuite, je m'en détache pour éviter d'avoir des attentes dessus et de laisser ni plus ni moins la vie faire à ma place. La vie doit traverser à travers moi pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre, vivre mes pensées. Dès lors où je suis dans le tout contrôle, la vie ne peut pas intervenir. Donc, vous représentez, vous êtes toujours dans les mêmes schémas. Pourquoi ? Parce que vous refusez, ni plus ni moins, d'aller dans l'imprévu, dans l'inconnu. Donc, vous êtes dans la peur de l'imprévu, de l'inconnu. Automatiquement, ne vous attendez pas à être surpris ou à avoir quelque chose de super, d'avoir des miracles. Rien ne peut se produire dans le tout-contrôle. Il ne peut pas y avoir de miracle dans le tout-contrôle. Dès lors, vous lâchez prise totalement dans vos pensées, une fois qu'elle est créée, c'est-à-dire que vous êtes dans le détachement, vous avez des techniques spécifiques pour bien vous détacher, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des miracles. Et ça, je peux vous en parler, puisque moi, les miracles, ça arrive tous les jours.
Merci, merci Jonathan pour ton explication. Il y a des questions maintenant, Jonathan, si tu es prêt à y répondre. On a Tokyo qui nous dit « Comment être sûr qu'on ne reproduit pas encore le même schéma, qu'on est enfin libéré de ce qui nous limite ?»
La souffrance. Dès lors où vous ne souffrez plus, ou moins, parce que les tensions, vous en aurez toute votre vie. Pourquoi ? Parce que ce sont les pensées, lorsque vous pensez, qui génèrent des tensions. Pourquoi ? Parce que c'est une source d'énergie. Quand on parle de tension, on parle tout simplement de source d'énergie. Vous l'avez peut-être des fois ressenti, mais une source, quand vous pensez beaucoup, vous avez une source de chaleur qui se trouve ici. C'est ni plus ni moins cette source d'énergie qui est en vous, qui anime aussi votre système limbique et donc qui anime votre système nerveux, qu'on appelle aussi âme. D'accord ? Eh bien, ce système-là, en effet, crée des tensions, parce que c'est une surcharge. Donc, lorsque vous avez cessé de penser, automatiquement, vous libérez ces tensions. Et sur vous, surtout, l'indication, notamment pour répondre à ta question, c'est la souffrance. Dès lors, je souffre plus, ça veut dire que quelque part, j'ai accepté de changer de pensée. Donc, accepter mon changement. Non. Accepter le changement aussi que la vie m'a demandé. Et après, donc, dans la souffrance, vous allez avoir différentes souffrances, par exemple, les genoux. Les genoux, c'est qu'est-ce qui fait que je ne souhaite pas m'agenouiller devant une situation ou devant une personne. Pourquoi ? Ça veut dire que peut-être que je veux ou je souhaite obtenir quelque chose, ne serait-ce que par exemple, pour élaborer ce que je veux dire, vous êtes célibataire, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous avez élaboré et créé votre pensée, mais par contre, vous ne souhaitez pas passer par exemple par les sites de rencontre, parce que vous avez une idée précise sur les sites de rencontre. Automatiquement, 2-3 jours plus tard, vous allez avoir mal au genou. Le genou va se séquestrer, notamment le genou droit. Vous n'allez pas pouvoir marcher, vous aurez des difficultés, peut-être au niveau du bassin. Ben là, c'est un signe. Ça veut dire que tout simplement, vous n'êtes pas assez ouvert. Pas assez ouvert d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous avez des préjugés. Et c'est ces fameux préjugés, ces fameux principes, donc je reviens sur la partie morale, qui vient vous bloquer tout ça. Ce qu'on vous a indiqué, ce qu'on vous a donné comme morale il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ne correspond plus du tout avec celle d'aujourd'hui. Donc, c'est tout ça à renouveler.
D'accord.
Dès lors que vous n'acceptez pas de renouveler, automatiquement, vous allez revivre ni plus ni moins les mêmes préjugés. Et à ce moment-là, automatiquement, vous allez souffrir. Parce que votre corps vous dit, attends, ta pensée, elle veut aller là, mais toi, tu refuses d'agir, en fait, de t'ouvrir et d'agir. Et bien souvent, quand la personne décide d'agir et de s'ouvrir, le lendemain, par exemple, sur un site de rencontre, elle rencontre cette fameuse personne qu'elle voulait tant avoir.
D'accord. Merci, merci Jonathan pour cette réponse. On a Hélène qui a rebondi sur un de tes propos qui dit « Pouvez-vous expliquer les douleurs de l'omoplate que vous évoquiez tout à l'heure ?»
C'est le manque d'harmonie. Quand on a une douleur au niveau des omoplates, que ce soit gauche ou droite, c'est le manque d'harmonie. C'est-à-dire que encore une fois, vous pensez des choses, vous n'y croyez pas vraiment, donc vous agissez pas du tout. Ou quand vous agissez avec vos préjugés. C'est-à-dire que vous vous contraignez. Vous vous contraignez avec deux options ou une option, alors que la vie vous demande de multiplier peut-être parfois quelques options dont vous ne souhaitez pas, par préjugé, y aller. Donc c'est de s'ouvrir, ouvrir son esprit et cesser d'avoir des préjugés. Cessez d'avoir, ni plus ni moins, des idées précises sur tout. Par exemple, bah, se dire oui, et là, il y a 2 ans, je me suis planté. Ok, mais il y a 2 ans. Ça veut dire aussi que tu n'étais peut-être pas prêt. Aujourd'hui, tu es peut-être plus prêt parce que tu as plus conscience de certaines choses. Vas-y. Et là, vous réessayez, bingo, ça marche. Oh ! Alors qu'il y a 2 ans, ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Comme je dis souvent, on ne sait rien. On ne sait strictement rien. Ce qui a été fait hier peut être fait aujourd'hui avec une conscience différente, donc différemment du coup, avec une stratégie différente et avec un résultat aussi qui correspond un peu plus à ce qu'on s'y attendait. D'accord. Donc, tout est en lien, encore une fois, avec la pensée.
Important.
On est souvent, excuse-moi Charlotte, mais on est souvent, ce que je dis souvent, c'est qu'on a un tas de poussière sur un tas de pensées et de préjugés.
Très parlant. Alors, on a aussi une autre question de Célilou, Jonathan, qui nous dit « Quel type de thérapie doit-on utiliser pour reprogrammer son inconscient, son subconscient ?»
Il y a plusieurs thérapies. On peut utiliser notamment différentes thérapies pour la libération. C'est la thérapie, je dirais que c'est juste l'outil, c'est la finalité. Le plus important, c'est le thérapeute, c'est celui qui va vous accompagner. Parce que suivant son niveau de conscience du sujet en conscience en traité, notamment l'inconscient, ben c'est ça qui va vous traverser. C'est le chemin le plus important et c'est pas forcément la thérapie. La thérapie, c'est un aboutissement. C'est allez, on a identifié ceci, on a bien élaboré sur quoi on devait travailler, et hop, on emploie le truc. Mais pas forcément conscientisé. C'est-à-dire, c'est pas forcément en fonction de votre conscience. Mmh. C'est en fonction de ce que le thérapeute a trouvé inconsciemment chez vous. Donc, c'est d'être ouvert d'esprit dans un accompagnement thérapeutique. On est ouvert d'esprit. C'est-à-dire que, ah ouais, et donc inconsciemment, c'est comme ça que je pense, en fait, finalement. Oui. Donc, eh bien, à ce moment-là, on revoit cet aspect inconscient et c'est là qu'à ce moment-là, les transformations se font. On transforme ni plus ni moins l'inconscient et non le conscient. Parce que l'inconscient, forcément, va suivre l'inconscient. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vous s'ouvrent. Et donc, du coup, en vous ouvrant, les yeux vont s'ouvrir, les solutions vont s'ouvrir à vous. Plus je m'ouvre, moins je reste dans mes croyances, plus je m'ouvre et plus de solutions arrivent, plus de miracles arrivent. Je ne crois ce que je vois et je ne crois que ce que je vois. Donc ça, c'est avoir une expression en tête pour se dire « Oui, je dois m'ouvrir à autre chose, écouter autre chose. » Voilà. Donc, comme pour reprendre l'aspect, donc l'outil thérapeutique, il n'y a pas forcément de préférence. Sachant que pour moi, par exemple, l'hypnose, notamment différents courants de pensée de l'hypnose, pas qu'un seul courant de pensée, mais plusieurs, amène en effet à différentes solutions, mais pas que. Il y a des techniques d'intégration, à savoir, parce qu'il faut savoir intégrer dans le subconscient. Il ne suffit pas de répéter des choses qui ne correspondent pas, mais savoir l'intégrer et le conscientiser pour s'intégrer dans le subconscient et ensuite agir. Et agir, pourquoi ? Parce que vous y croyez. Tout ce qui agit en vous, c'est toutes vos convictions, conscientes et inconscientes. C'est ça qui vous fait agir. Si vous croyez, par exemple, au fait de faire voyager, c'est bien, c'est une conviction. Si demain, vous vous dites « Ah ben non, voyager, ça pollue », vous voyez, vous n'allez pas le faire.
D'accord. Merci, Jonathan. On va faire une dernière question. Quelle vais-je choisir ? Allez, on va aller sur celle-là. On n'a pas abordé ce truc-là. Théo Dessal qui nous dit « Pourriez-vous développer sur la part sombre du soi ?»
Ah, la part sombre, j'ai énuméré quelques aspects, notamment le fait de vouloir être brillant à tout prix, le côté pervers, donc tous ces aspects-là, le côté paranoïaque, le côté psychopathe, le côté schizophrène aussi, on a ces côtés-là, le côté de vouloir toujours tout séduire, donc à rééquilibrer cette partie-là. Pourquoi ? Parce que, regardez, ne serait-ce que sur la partie pervers, on le voit notamment avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le voyeurisme. Lorsque vous regardez des vidéos des personnes en train de se mouver, machin, de montrer ce qu'on appelle leur pulsion sensuelle, eh bien, automatiquement, c'est du voyeurisme. Et de l'autre côté, on est sur de l'exhibitionniste. D'accord ? Donc ça, c'est un côté pervers aussi de l'être humain. Donc tout ça, si ce n'est pas accepté, ou c'est pas accepté que ce soit consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment, automatiquement, ça va ressurgir et on va accuser l'autre, bien souvent, de ce qu'il fait. on l'accuse, on dit, bah, lui, j'aime pas ça parce qu'il fait ceci, j'aime pas cela. Bah, tout simplement, c'est tout ce qu'on n'aime pas de nous. Hein. Mm. Tout ce que je ne veux pas voir de moi, je ne veux pas le voir à l'extérieur. Tout ce que je ne veux pas voir de moi de l'intérieur, je ne veux pas le voir de l'extérieur non plus. Donc, c'est aussi en même temps, faisant cet accompagnement, en même temps, j'apaise, en plus de mon être, j'apaise aussi tout mon entourage et tout ce que je vis, le pourquoi je le vis. J'apaise ma vie en général.
D'accord. Merci Jonathan d'être venu aujourd'hui nous parler de cet inconscient. Très enrichissant. Je pense que tu as déjà beaucoup de remerciements. Je pense que tes exemples étaient très parlants aussi. C'est ce qui est revenu pas mal de fois. Donc, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu parler de l'inconscient. Je ne sais pas si tu avais un message aujourd'hui à faire passer sur l'inconscient ou sur autre chose.
Ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Ne pensez pas que vous savez tout sur tout, mais bien au contraire, savoir s'ouvrir sur soi-même, déjà son inconscient, c'est très très important. Hein, ne serait-ce que pour soi, si on s'aime, eh bien on va vouloir s'ouvrir. Parce qu'on veut le meilleur pour soi. Et moi, c'est ce que je vous souhaite à tous, le meilleur.
Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour...
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.